Pour faire d'immobilité, pour the making of spectacle, une manière de déjouer l'illusion, d'abattre le quatrième mur entre spectateur et actant interprète. Quel a été votre désir de départ justement en créant cette déconstruction, reconstruction d'un spectacle de danse?
Ben, l'idée première, c'était vraiment de donner un peu la parole au public, finalement, de voir si on pouvait collaborer les spectateurs et l'équipe artistique ensemble pour créer un spectacle. Bon, nous, on travaille depuis 2 mois sur un concept et du matériel précis, je dirais. Mais tout ce matériel ne sera pas fini, ne sera pas agencé, composé lors de la première et pour les spectacles. Donc, en fait, le spectacle va se construire petit à petit avec chaque public, en fait. À chaque représentation, il y aura un sédiment de plus, comme ça.
Alors, une sorte de palimpseste qui sera créé en commun avec le public. Le dramaturge et metteur en scène français Armand Gatti disait que un spectacle fini est un spectacle mort. D'une certaine manière, vous proposez une couronne de fragments qui peuvent être réagencés par le public, à recomposer chaque soir tel un menu. Qu'est-ce que vous aviez aussi dans la dynamique qui est intégrée justement dans ce type de partition ouverte? Quel défi aussi ça représente à la fois pour le chorégraphe et les danseurs?
Bon, je pense que sûrement que... Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, jusqu'à la première, on ne pourra pas expérimenter ce que c'est. Donc on peut supposer, on peut imaginer, on a beaucoup de discussions sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, comment le public va réagir, mais on ne saura jamais. Et donc ce qui est assez intéressant, excitant et forcément un peu qui nous fait un peu peur, c'est que le jour de la première, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas si le public va répondre, s'il va se taire, s'il va... La seule chose que j'ai, qui me donne confiance, je dirais, c'est que j'ai expérimenté pas mal avec cette idée d'interaction avec le public. D'une part, en 2000, quand j'ai fait dans cette pièce Descendance, j'avais décidé d'avoir une interaction avec le public beaucoup plus circassienne, enfin, c'est-à-dire que c'était un peu une sorte de cirque comme ça, mais je voulais vraiment entendre les réactions du public après une série de mouvements, par exemple, et voir comment le public jugeait une œuvre. Voilà. Donc ça, c'était une première expérimentation, et ça, il y avait toujours des réactions, en tout cas. Donc cette interaction-là m'intéressait. Dans le spectacle qu'on a fait l'année passée, en 2006, qui s'appelle Incidence, dans la dernière partie, tout le matériel avait été, disons, déconstruit. J'avais fait une chorégraphie de 25 minutes. Tout le matériel ensuite a été déconstruit et mis en une sorte de liste, comme ça, que chaque danseur pouvait agencer. C'est-à-dire que chaque danseur devenait metteur en scène et agençait comme il le voulait, sur le moment, sur le vif, en direct. C'était des constructions de spectacles, finalement, des constructions de monde comme ça. Et cette fois-ci, donc, c'est vraiment avec le spectateur que ça va se faire. Donc voilà, ces trois variations forment un tout, j'ai l'impression, et les deux premières, disons, me donnent la confiance que c'est possible.
Alors, Incidence, c'était une présence assez prégnante de la vidéo, peut-être une expérience de la chorégraphie à l'ère de YouTube, à l'ère du blog aussi, avec l'interactivité, la ductilité que peut permettre ce type d'intervention. Qu'en sera-t-il justement de la vidéo dans ce making of spectacle?
Mais il n'y a pas de vidéo. Donc là aussi, je travaille pas mal sur... j'essaye de simplifier quand même les choses. Là, il n'y a pas de superposition, il y aura peu de sons, on utilise plutôt la voix, donc il y a pas mal a cappella. C'est assez simple, et j'essaye de simplifier les scènes qu'on va proposer au public. Donc il y a une idée chez moi là de simplicité et de pouvoir un peu épurer les choses.
Alors justement, dans cette épuration, il y a un appel au cri du corps, à l'organicité d'un orgue humain. On peut penser à Georges Apex, on peut penser aussi à d'autres types de créations, notamment donc l'ouverture de cette première partie, première proposition, donc trois propositions de 8 minutes, vision, où on a effectivement ce souffle partagé en commun avec cette ligne de corps, comme ça, en fond de scène, et vous-même qui avancez une main sur votre champ de vision et l'autre s'écartant. Alors c'est une sorte de danse à l'aveugle, entre guillemets, que vous faites. Qu'en était-il justement par rapport déjà à cette pulsion au plan du souffle, de l'organicité ?
Bon, en fait, ça me paraissait juste de faire quelque chose qui utilisait la voix en même temps que le mouvement et que effectivement tout ça sorte de nos corps, de nos quatre corps sur scène. Donc c'était important qu'il y ait effectivement, il me semblait, tout un corps qui s'exprime par la voix et qui s'exprime par le corps. Donc ça c'est une chose. L'autre, il me semble que c'était intéressant de faire des trajets différents avec le même matériel de base, c'est-à-dire de proposer un peu comme Keno, de faire des variations sur le même patron, de trouver l'expression, l'expressivité de différentes façons. Et donc c'était, là on en propose trois, à partir du même matériel, on va proposer trois thèmes ou trois directions qui changent le matériau de base en fait. Et ces trois propositions vont être montrées et puis le public, à la majorité, va choisir sa partie préférée finalement. Et puis, à partir de là, on va construire et travailler ensemble pour développer cette partie-là.
Vous évoquiez à l'instant le Keno. Qu'en est-il justement, puisque vous avez également été influencé au départ, comme beaucoup d'autres chorégraphes, puisque vous avez suivi notamment l'enseignement de Merce Cunningham par le yiking, par ce coup de dé malarméen comme ça, mais qui peut aussi se reprogrammer d'une certaine manière, induisant à la fois des phrases chorégraphiques, la manière de les agencer entre elles. Qu'en est-il du Keno alors ici, dans cette structuration, dans ce storyboardisation d'une grammaire chorégraphique?
Là, en fait, moi j'ai jamais utilisé mon rapport avec Merce Cunningham est vraiment un rapport d'abord physique, effectivement, puisque j'étais son interprète, mais aussi effectivement intellectuel, et je l'ai étudié en même temps que j'ai dansé pendant 7 ans dans sa compagnie. Donc il me semble que j'ai essayé de digérer ses idées sans trop les dupliquer. Donc ce qui m'intéresse plutôt, c'est de pouvoir avoir ces informations qu'il m'a données et de les réutiliser, de partir à partir de ça. Donc, moi, j'ai jamais utilisé le hasard et non plus l'idée de laisser vraiment au hasard la chorégraphie. Par contre, l'idée de variation m'a toujours ça m'intéresse. Donc, finalement, dans les classes, donc dans les phrases chorégraphiques ou dans les propositions théâtrales, ça m'a toujours intéressé de voir la différence entre deux choses ou trois choses, des minimes différences, et de voir la multiplicité finalement de possibilités.
Quand on voit cette pièce, on pense parfois, même si l'homologie de structure n'est pas la même au plan de la composition, aux premières pièces de Trisha Brown, cette Accumulation with Talking, c'est-à-dire il y a une phrase chorégraphique qui est ensuite complétée par une seconde, on reprend depuis le début, puis ensuite une troisième. Vous, on a l'impression aussi que vous fonctionnez un petit peu dans un phénomène à la fois de sédimentation, d'accumulation, puis après vous allez un petit peu brouiller les codes. Qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, bon, je pense que j'ai toujours été intéressé par, des structures très très fortes et, dans l'idéal, pour moi en tout cas, des concepts très précis. Et après, effectivement, l'idée c'est de pouvoir jouer ça, c'est-à-dire si on étudie vraiment, on peut voir la structure, on peut voir justement que c'est composé en A, B, A, B, C, etc., par exemple. Mais mais qu'au fond, finalement, c'est plutôt la vie, le foisonnement qui est possible, et la vie sur scène qui m'intéresse.
On va juste voir brièvement ces trois parties proposées, mais déjà, pour un élément qui vient très en amont, qui est l'affiche, vous êtes donc devant le palais de l'ONU, à Genève, où il y a traditionnellement des manifestations, comme récemment, en solidarité avec la cause tibétaine. Vous avez une sorte de sac à côté de vous, Philosophy in the Flesh, un Floyd ou un petit projecteur sur le devant, un artifice et puis un mouton qui ne sort pas nécessairement d'une pochette des Beatles ou autre. Donc qu'est-ce qu'il en était déjà dans ce composite qu'on a là, notamment au niveau de Philosophy in the Flesh, enfin un petit peu ses références?
Bon, là, je voulais... le spectacle n'était pas encore créé. On n'avait même pas commencé les répétitions quand il fallait faire cette photo. C'est en fait assez intéressant toujours de pouvoir essayer de lancer une publicité très tôt, même, c'était, je pense, un an et demi avant. Donc, effectivement, là-dedans, je dirais que je retrouverais la déconstruction, c'est-à-dire qu'il y a un spot... qui n'est pas branché, qui est dehors. Effectivement, je suis sur la place devant l'ONU. Il y a un peu, le concept, c'est-à-dire les livres de philosophie dans la chair, effectivement, glossaire de la sémantique. Après, il y a un boa, donc l'aspect beaucoup plus théâtral et artificiel comme ça, qui est lancé en l'air, qui a l'air d'être aussi du sang qui sort de mon ventre. Il y a un disque compact, et puis il y a une position, les gens de dehors, des gens qui, les passants qui sont là vraiment, qui voyaient bien qu'ils étaient dans le champ de la photographe. Et j'aimais bien l'idée d'internationalité, effectivement, de tous ces drapeaux de l'ONU, peut-être aussi une sorte de pièces politiques sans que ça soit trop appuyé, en fait, quand même, parce que c'est vrai que je pense que le fait de donner la parole, c'est-à-dire de une sorte de démocratisation de l'acte créatif, m'intéresse. Et puis sinon, je suis trop crevé là, j'arrive pas.
Une perspective de ligne.
Ouais, le mouton, il a été rajouté avec Photoshop.
D'accord. Par rapport à ça, justement, je crois que les deux danseuses avec lesquelles vous travaillez, hors Philibert, avec lequel vous étiez déjà notamment sur Incidence, il me semble que vous aviez travaillé avec elles dans Body Toys, qui est une pièce, elle, éminemment politique. On fait quand même le lien entre les deux, peut-être en rappelant un petit peu Body Toys, et puis celle qui est ici, parce que c'est vrai qu'il y a une manière, disons, de revenir sur les simulacres théâtraux qui sont très différents de d'autres chorégraphes, on le verra sans doute tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il en était quand même sur ce lien entre Body Toys, qui était aussi une manière peut-être de repasser un petit peu comme ça les slogans qu'on peut avoir au quotidien, ce phénomène de marketing viral, de buzz dans lequel on est totalement immergé et confondu avec les ad screens, avec tout ce qui nous envahit comme messages subliminaux ou autres. Et puis celle-ci qui est peut-être plus subtile, plus évidente dans le fait d'ouvrir le ventre du théâtre d'une certaine manière, mais qui prolonge peut-être aussi ça. C'est-à-dire le fait de dire de ne pas être dupe de ces illusions, d'aller peut-être voir derrière.
Oui, je pense que vous le résumez assez justement. Body Toys était, pour moi, le point de départ, c'était, et en même temps de se réapproprier ce corps numérique qu'on voit partout, effectivement, en même temps de montrer le corps comme un jouet, finalement, ou comme très manipulé, donc de montrer comment on manipule, finalement, dans l'espace, en particulier médiatique, télévisuel, les corps, comme ils sont manipulés. Et en même temps, donc comme c'est des corps jouets, c'est de montrer que en fait ces corps jouets sont une sorte des corps morts finalement, qui sont qui essaye de divertir, de nous divertir en fait, et on est spectateur de notre propre divertissement qui sont en fait dans des corps morts comme ça. Et puis, disons l'ironie de Body Toy, c'était de prendre le thème de la révolution et de montrer que voilà, ben maintenant le Che, c'est des t-shirts avec à son effigie, mais qui sont vendus 50 balles. Je trouve ça très ironique. Donc, ça m'intéressait de voir ce recyclage en fait par le capitalisme des mouvements les plus radicaux gauchistes et c'est assez intéressant. Donc ça parlait de ce phénomène là le rapport dans cette pièce The Making of Spectacle, c'est le rapport avec la politique, c'est plutôt quand même quelque chose où on voit que donner la parole au public, c'est aussi un fait, c'est-à-dire que chaque œuvre artistique revient dans le domaine public et est réutilisé, inspire les nouvelles générations, les prochaines générations du monde entier finalement, si c'est accessible, si c'est visible, etc. Donc c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a ce passage finalement de l'artiste vers de l'œuvre du domaine public. Et donc là, c'est un peu montrer qu'effectivement, on peut le faire en direct et que c'est déjà du domaine public lors du spectacle. D'autre part, ça m'intéressait aussi, et ça c'est moins politique, c'est plus par rapport à une idée ou disons une problématique personnelle, j'aime bien l'idée que l'artiste, en l'occurrence un chorégraphe, se met à la place du spectateur. Donc il va souvent en face de la scène, il se place dans le public pour voir l'œuvre, comme le peintre va voir prendre quelques pas de recul pour voir son œuvre. Et dans ce moment-là, il se met à la place symboliquement et réellement à la place du spectateur. Donc je trouve ça intéressant, il y a un transfert et en même temps que le spectateur, lui, souvent dirait, par exemple après un spectacle, moi j'aurais fait ça j'ai bien aimé, j'aurais fait comme ça, etc. Donc il y a se mettre à la place d'eux, finalement, j'aimais bien ce transfert, ce moment où en fait le chorégraphe ou l'artiste devient spectateur ou s'imagine spectateur, et le contraire, le spectateur s'imagine créateur et aurait fait différemment ou de la même façon. Et c'est là où on se retrouve, et dans ce spectacle, finalement, on va partager ce moment-là de création ensemble.
Alors, si on reprend ces 3 fois 8 minutes, parce que dans cet échange, il y a aussi peut-être des rencontres avortées qui ne seront pas possibles, mais les trois ont des tonalités assez différentes, même si le matériau chorégraphique semble courte pointée et ciselée à peu près de manière commune les trois, mais il est développé, diffracté, d'une manière chaque fois diverse. Le premier, vision, qu'est-ce que vous aviez justement sur cette fabrication de la vision en idée par rapport à ça ?
Voilà, je voulais plutôt montrer l'aspect mystérieux, magique, mais en soi, vraiment essayer de recréer l'aspect magique et mystérieux du théâtre et en même temps l'évanescence de la danse. Donc on a travaillé sur l'idée plutôt de fantôme, de quelque chose encore une fois d'extrêmement évanescent, et puis une sorte d'incantation. Dans cette partie-là, on a gardé de textes de théâtre seulement les voyelles, donc c'est des ho, des ha et des choses comme ça qui sont comme des incantations ou des déclamations mais sans les consonnes et donc on en garde le souffle finalement. Et voilà, et on joue sur vision ou au contraire ne pas voir, etc., puisque spectacles implique ça. Après, vous voulez parler
alors,
de la deuxième?
Oui. Peut-être la deuxième. Alors, est-ce que c'est déjà dans la deuxième ce phénomène, justement, effectivement, où les danseurs, l'un après l'autre, vont se faire, de manière imaginaire, tirer dessus, vont s'écrouler, effectivement, en se prenant la cuisse droite, je crois. Alors, qu'en est-il par rapport à cette seconde partie, dans laquelle vous révélez aussi un certain nombre d'éléments du théâtre dans sa physicalité, dans son architecture même?
Donc là, la deuxième partie, là, donc c'est celle qu'on appelle la fabrication de l'artifice, c'était en particulier du coup déjouer cette magie qu'on aurait proposée dans la première partie, c'était montrer l'illusion et la désillusion qu'on peut avoir. Mais c'est toujours aussi satisfaisant de voir, on aime bien voir les coulisses du théâtre, on aime bien être curieux dans ce sens-là. Donc finalement, c'était aussi justement montrer les éléments et les séparer pour voir comment ils sont agencés finalement, avant qu'ils soient agencés. Et dans cette partie-là, la partie voix, en fait, du coup, on a gardé que les consonnes de texte. Et du coup aussi, on voit aussi l'artificialité qu'on peut avoir de la déclamation, etc.